Parlement approuve la proposition controversée.
Plans are in place and these flights will go come what may.
Nous sommes prêts, a-t-il déclaré. Les plans sont en place et ces vols auront lieu.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous lire quelques extraits du roman « La fille qu'on appelle » de Tanguy Viel, paru en septembre 2021 aux éditions de Minuit. Ces inquiétudes rencontrent l'air du temps, à savoir l'exercice du pouvoir, l'abus de pouvoir et l'emprise.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Regardant l'heure sur son téléphone, elle a refermé le journal, posé 2 euros dans la coupelle devant elle et s'est levée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois, certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix. Cette veste en cuir noir qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui en effleurait la maille quand elle tirait dessus. Oui, a-t-elle dit au policier, ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça, et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans. De sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou infirmière, ou je ne sais pas, la fille qu'on appelle.
La fille qu'on appelle, a demandé l'un d'eux.
Oui, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Call girl. Et elle a ri nerveusement d'avoir dit ça, call girl, sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des deux flics, les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle, mais l'un comme l'autre à l'affût de chaque mot qu'elle employait et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire. Et puis donc, elle a repris son récit. Qu'au vigile à l'entrée de la mairie, elle avait demandé où se trouvait le cabinet du maire, sans savoir que lui, le vigile, en resterait de marbre, indiquant d'un simple mouvement de tête le grand comptoir au fond du hall, laissant traîner presque machinalement ses yeux de haut en bas sur sa silhouette à elle. À cela, elle était habituée. Que le regard des hommes vint s'effranger sur elle, elle n'y faisait plus attention depuis longtemps. Pour cette bonne raison que parmi l'occurrence déjà, elle avait fait l'expérience de son attrait, à cause de sa grande taille peut-être, ou bien de sa peau métisse. En tout cas, depuis longtemps, elle le savait, indifférente au charme qu'elle exerçait. Ce jour-là, ni plus ni moins qu'un autre, sa robe ajustée donc, qui ne couvrait pas ses genoux, aux pieds ses baskets blanches, qui ne l'étaient plus vraiment, à cause du cuir usé qui en couvrait la surface. À l'accueil aussi, elle a répété qu'elle avait rendez-vous avec le maire, regrettant que personne ne lui demande le motif de sa visite. À quoi elle aurait répondu que c'était personnel. « C'est vrai, dit-elle, j'aurais bien aimé qu'on me le demande juste pour répondre. C'est personnel. » Mais pas même en haut du grand escalier de pierre qu'on lui a indiqué, pas même la chétive secrétaire postée à l'entrée du bureau comme un vieux garde-barrière, personne ne lui demanderait la raison de sa visite. Accusant quant à elle la secrétaire de ce qu'il fallait de réprobation ou de jalousie en la dévisageant, si on peut dire ce mot-là, dévisager, quand le regard cette fois tombe comme une guillotine de la tête jusqu'aux pieds. Elle a soupiré un peu, la dite secrétaire comme une gouvernante dans une grande maison qui se serait réservé le droit de juger qui ses maîtres recevaient. Et puis elle a daigné se lever, a entrouvert la lourde porte de bois dont elle semblait garder l'entrée, et passant la tête dans l'ouverture, elle a dit « Votre rendez-vous est arrivé ». Laura aussi l'a entendu, la voix masculine qui répondait « Ah oui, merci ». En même temps que la vieille secrétaire invitait la jeune fille à se faufiler à son tour dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le passage volontairement étroit qu'elle avait laissé entre la porte et le mur, comme si elle, la plus jeune des deux, avait dû forcer le passage pour entrer. En tout cas, c'est cette impression qui devait rester gravée en elle pour longtemps. « Oui, quelque chose comme ça, » elle a dit, « que c'est moi qui suis entrée et non pas elle qui m'a ouvert. » Mais je vous jure que s'il avait fallu la pousser, a-t-elle ajouté, je l'aurais fait. Et peut-être à cause du regard soudain sourcilleux des policiers qui lui faisaient face, elle a cru bon d'ajouter, je vous rappelle que j'ai grandi près des rings. Et sûrement, ils eurent le sentiment que dans cette phrase se logeait une partie de son histoire, avec elle toute la rugosité de l'enfance. En même temps qu'elle laissait déjà entendre quel fossé la séparait de l'autre, le type à l'immense bureau que rien, ni l'accueil froid de la secrétaire, ni la taille démesurée de la pièce, ne venait rapprocher de son monde à elle. « Non, rien du tout », a-t-elle dit encore au policier. « Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer. »« Un monde normal ? Mais qu'est-ce que vous appelez un monde normal ?» ils ont demandé. « Je ne sais pas. Un monde où chacun reste à sa place. » Et comme elle essayait de se représenter ce monde-là, normal et fixe, où chacun, comme une figurine mécanique, aurait eu son air maximal de mouvement, ses yeux étaient venus se perdre dans le tissu bleu de la veste en face d'elle, et laissant s'échapper par-devers elle cette pensée surgie des profondeurs, elle a dit « Mon père avait l'air d'y tenir tellement. »
Peut-être il aurait fallu commencer par lui, le boxeur, quand je ne saurais pas dire lequel des deux, de Max ou de Laurent, justifie plus que l'autre ce récit, mais je sais que sans lui, c'est sûr, elle n'aurait jamais franchi le seuil de l'hôtel de ville, encore moins serait entrée comme une fleur à peine ouverte dans le bureau du maire, pour la bonne raison que c'est lui, son père, qui avait sollicité ce rendez-vous. Insister d'abord auprès d'elle, insister ensuite auprès du maire lui-même, puisqu'il en était le chauffeur. Depuis 3 ans maintenant, qu'il le conduisait à travers la ville, ils commençaient à se connaître. Lui, le maire, de 10 ans peut-être, l'aîné de son chauffeur, celui-là dont le sourire quotidien lui parvenait à travers le rétroviseur, ou pas vraiment le sourire, mais le plissement toujours inquiet de ses yeux qui cherchaient son attention à lui, l'homme à l'arrière toujours, qui si souvent n'y prêtait pas attention, regardant seulement dehors le lent défilement des façades ou bien des vitrines lumineuses, comme si parce qu'il était maire de la ville, il se devait d'effleurer du regard tous les immeubles, toutes les silhouettes sur les trottoirs, comme si elles lui appartenaient. Et d'avoir été réélu quelques mois plus tôt, d'avoir pour ainsi dire écrasé ses adversaires à l'entame de son second mandat, sûrement ça n'avait pas contribué au développement d'une humilité qu'il n'avait jamais eue à l'excès. À tout le moins, n'en avait jamais fait une valeur cardinale. Plus propre à voir dans sa réussite l'incarnation même de sa ténacité, celle-là sous laquelle sourdaient des mots comme « courage » ou « mérite » ou « travail » qu'il introduisait à l'envi dans 1000 discours prononcés par tous ces 6 dernières années sur les chantiers inaugurés ou les plateaux de télévision, sans qu'on puisse mesurer ce qui, dedans, relevait de la foi militante ou bien de l'autoportrait. Mais à travers lesquels, en revanche, on le sentait lorgner depuis longtemps, bien plus loin que ses seuls auditeurs, espérant que l'écho s'en fasse entendre jusqu'à Paris, où déjà les rumeurs bruissaient qu'il pourrait être ministre. Et pour qui en avait le visage, chaque jour dans son rétroviseur, il n'était pas besoin d'un traité de physiognomonie pour que cette même ardeur ou détermination apparaisse là, sous les sourcils noirs, épais, et pourtant presque doux, contrastant plus encore alors avec ce regard froid et ferme de tous les gens de pouvoir. En 3 ans, Max avait appris à entraquer les nuances et les failles, ou plutôt non, pas les failles, mais les ouvertures sciemment laissées, s'il est vrai que le pouvoir, ce n'est pas dans la raideur qu'il se fonde, mais à l'endroit calculé de ses inflexions, comme un syndrome de Stockholm appliqué heure par heure, quand chaque entorse faite à l'austérité fait naître dans l'œil soumis de l'interlocuteur la brèche de fausse tendresse où s'engouffrer. Et de ce que je crois savoir, Maxime Lecor à cette aune était un bon client, du genre de cheval reconnaissant dès qu'on relâche le mort, à quoi s'ajoutait la dette qu'il se sentait avoir, puisque c'était lui, le même maire, qu'il avait recruté, en ce temps où Max était, comme on dit, dans le creux de la vague.
Si on m'avait dit que je boxerais encore à 40 ans, a-t-il dit au maire. La boxe, a répondu l'homme à l'arrière et regardant toujours dehors, on dit que ça se passe beaucoup dans la tête. Et Max, les yeux fixés sur la route devant lui, a fait une moue invisible qui signifiait peut-être « Si je t'en mettais une, tu verras ce que ça fait dans la tête ». Mais invisible assez, cette moue presque intérieure, pour que dans le même temps, son silence ait valeur d'acquiescement. Parce que bien sûr, le maire avait raison, la boxe, c'est d'abord dans la tête. La boxe est un sport de nerfs et de force mentale. Oui, cela, ce n'est pas Max qui dirait le contraire. En tout cas, c'est courageux d'aller défier Costa, a repris le maire. C'est maintenant ou jamais, a répondu Max. Le temps ne joue pas pour moi. En quoi il avait raison. Vous allez gagner, Max, j'en suis sûr. Et alors, profitant de ce qu'à cet instant le maire avait l'air d'être avec lui, Max a fini par évoquer ce qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Cela que le matin même, en se levant, il s'était promis d'aborder et qui n'avait rien à voir avec la boxe. Non, c'était à propos de sa fille. Il voulait lui parler de sa fille. Je voulais vous demander un petit service, monsieur le maire. C'est à propos de ma fille. Elle est revenue s'installer ici et... Oui, bien sûr, a dit le maire, dites toujours. C'est-à-dire qu'elle a fait une demande de logement auprès des services de la ville, mais vous savez ce que c'est, ça prend du temps. Alors, je me suis dit que peut-être, en passant par vous... Et le maire lui avait évité de s'enliser, avait écourté aussi vite sa demande, disant « Bien sûr, Max, dites-lui de passer me voir à la mairie, je verrai ce que je peux faire. » Et pendant que la voiture s'avançait le long des vieux gréements, comme dans un musée en plein air, Max avait respiré intérieurement, comme aussi bien il serait ressorti d'une salle d'examen en ayant le sentiment d'avoir réussi, en même temps qu'il répétait à l'homme à l'arrière que c'était vraiment gentil à lui de prendre le temps de la recevoir, qu'il n'était pas obligé de faire ça pour lui, pendant que lui, l'homme à l'arrière, était occupé à réajuster sa cravate ou épousseter les manches de son costume, lui répondant que ce n'était rien, qu'en un sens ça faisait partie de ses attributions, qu'il avait été élu pour ça, pour rendre service. Et Max espérait que ça se passe bien, qu'elle serait à la hauteur. Il a dit ça plus tard, Max, qu'il avait pensé cette phrase. « Oui, c'est vrai, j'espérais qu'elle soit à la hauteur. »
À la hauteur, il faut croire qu'elle le fut, en tout cas, quand la porte du bureau s'est refermée derrière elle et qu'elle s'est retrouvée face au maire, lui non plus n'a pu s'empêcher de jeter ce regard vertical et plongeant sur sa silhouette à elle. Mais à cela, elle ne fit pas attention, saisie par l'immense volume du très luxueux bureau où elle venait d'entrer. Un instant, elle a cru qu'elle était à l'Élysée ou quelque chose comme ça, à cause de tous les vieux fauteuils et les tapisseries médiévales représentant telle scène de chasse, les épaisses boiseries qui, dans leurs caissons, sertissaient les plafonds peints, dès lors qu'en France, c'est comme ça, dans les cabinets des maires, persiste l'ancien régime. Lui encore, assis sur son fauteuil de cuir, aussitôt s'est levé, se frayant un passage entre les vieux meubles pour l'accueillir et lui serrer la main, disant dans le même élan « Bonjour, Laura. Vous allez bien ?»« Oui. Comme si on se connaissait d'Ève et d'Adam, elle a dit. Il m'a appelé par mon prénom. » Elle, c'est à peine si elle l'avait croisé auparavant. Une fois peut-être avec son père, mais à l'époque, il n'était même pas maire et elle ne s'en souvenait pas. Mais peut-être qu'il faisait ça avec tout le monde. Peut-être que tout le monde avait droit à son sourire et à son prénom. Comme une bienveillance dont il se serait senti investi par sa fonction, afin qu'entre lui et eux, les habitants, les citoyens, les administrés, il n'y ait jamais d'autre fossé que les responsabilités toutes provisoires qu'on lui avait confiées. En tout cas, ce sont des choses qu'il aurait pu lui dire, mot pour mot, et parce que peut-être aussi rien ne le remplissait plus que cette sensation de condescendre à la vie normale, si la vie normale à ses yeux, c'était la masse indifférenciée des gens c'est-à-dire ce qu'il appelait lui-même les gens. Depuis son élection, c'était son rôle de connaître les gens, de les aimer, de se faire croire qu'il les aimait, à moins que oui, c'était possible aussi qu'il ne s'aimât lui-même en train de les aimer. Elle aurait senti des choses comme ça, Laura, elle qui n'y avait jamais laissé toute sa lucidité, et même si depuis la veille, elle s'inquiétait de ce qu'elle dirait ou comment elle s'habillerait, si une partie d'elle tremblait comme une enfant convoquée chez un directeur d'école, elle savait très bien aussi que lui, quand il s'était levé ce matin-là, il ne connaissait même pas son agenda du jour. Et c'est bien pourquoi il ne partait pas à égalité. Elle, Laura Lecor, 20 ans, étudiante, et lui, Quentin Lebars, 48 ans, maire de la ville. Narrow streets of cobblestone, near the hill of a street lamp, I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Il aurait pu reprendre sa place derrière son grand bureau de maire, lui proposer une chaise en face de lui, mais non, il a indiqué le canapé de cuir qui délimitait un petit salon près de la fenêtre. « Venez par là, » il a dit, « nous serons mieux. » Et le temps qu'elle parcourt la pièce entière du regard, qu'elle s'habitue à tout ce luxe comme on doit s'habituer à la lumière au sortir d'un tunnel, à ce moment-là, il lui a proposé de s'asseoir. Seulement, il n'a pas dit « asseyez-vous », non, il a dit « assieds-toi, je t'en prie. » Elle a fait comme si elle n'était pas surprise qu'il la tutoie si vite, que peut-être à cause de son jeune âge, forcément c'était normal qu'il soit avec elle plus familier qu'avec une autre. Et puis parce qu'aussi bien sûr, elle était la fille de Max. Je veux dire pas seulement la fille du grand boxeur, mais d'abord et surtout la fille de son chauffeur. Elle, s'asseyant sur le rebord du canapé, comme craignant de s'enfoncer trop loin dans la mousse des coussins, elle l'a remercié d'abord d'accepter de la recevoir et de prendre ainsi sur son temps, lui l'interrompant aussitôt, insistant que c'était normal et que s'il pouvait l'aider, bien sûr, il le ferait. Lui encore debout, s'allumant une cigarette. « Ça ne te dérange pas si je fume ?» Elle a fait non de la tête. « Serre-toi si tu veux. » Mais même si elle en avait très envie, tandis qu'il tendait le paquet vers elle, tandis qu'il n'avait pas douté un instant qu'elle était fumeuse, elle ne s'est pas permis d'en prendre une. Plusieurs fois ensuite, elle fixerait le paquet. Plusieurs fois plus tard, elle ne verrait que lui et se concentrerait dessus pour ne pas se laisser troubler. Alors, il a rapproché le cendrier posé sur la table basse et il s'est assis sur le fauteuil en face d'elle, avec l'aisance de qui se sent chez lui et connaît la réaction des objets, jusqu'au léger rebond du coussin dans lequel il s'enfonçait, les coudes aussitôt posés sur les accoudoirs, se penchant un peu vers l'avant, comme s'il allait s'élargissant en contre-jour et le corps tout entier dans la diagonale d'elle, qui, par réflexe sans doute, avait dû légèrement resserrer ses jambes l'une contre l'autre. « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle a fini par dire qu'elle était revenue tout récemment, que pour l'instant elle logeait chez son père et qu'elle avait déposé un dossier pour un logement. Mais que peut-être il pourrait appuyer sa demande et que, voilà, ce serait formidable pour elle si... Un logement, oui, ça n'est pas facile, ça. Et depuis le début, il ne l'avait pas quitté des yeux, plongeant dedans comme dans un lac volcanique dont il ne voulait pas voir les rives, la laissant à son silence à elle, se demandant ce qu'elle devait dire. Comme si on l'avait obligée à être là et que maintenant on l'obligeait à quémander quelque chose. « Vous savez, elle a dit, ce n'est pas moi qui me serais permis de vous demander quoi que ce soit, mais mon père a insisté pour... » Et se rendant compte, lui, à l'instant même qu'il l'avait oublié, son père, à elle. Se rendant compte surtout qu'il n'avait pas envie d'y penser maintenant. Cherchant plutôt comment relancer la conversation, n'importe quoi, pourvu de ne pas sentir Max s'interposer entre eux deux. Alors... Sans qu'il mesure en lui ce qui relevait du calcul ou de l'instinct, il a repris « Tu étais où avant ?»« À Rennes, » elle a dit. « Ah oui, à Rennes. »« C'est bien à Rennes. C'est jeune. C'est vivant. »« Mais quitter Rennes pour ici, à ton âge, on fait plutôt le contraire, non ?»« Oui, sans doute, » elle a fini par dire.
Elle a expliqué que désormais, elle cherchait à faire sa vie ici, dans la ville où elle était née et qu'elle avait quittée il y avait bien longtemps. Et puis la mère me manquait. Ah, la mère, il a repris. Ici, c'est vrai, elle ne manque pas. Et tu fais quoi en ce moment? Je veux dire, tu as un travail? Non, pas encore. Je cherche, elle a dit. Tu cherches dans quoi? La psychologie? Elle n'a pas su s'il y avait de l'ironie ou de la défiance dans sa question, mais enfin elle a répondu « Oh non, pas forcément, n'importe quoi en fait. » « Peut-être que je pourrais t'aider pour ça aussi, il a dit, te trouver un travail. » Elle, surprise bien sûr, et se disant « Bon, si le maire commence à proposer un travail à tous ceux qui entrent dans son bureau. Oui, bien sûr, si vous entendez parler de quelque chose. » Mais déjà, lui, ce n'était plus sa réponse qui l'intéressait, plutôt le temps que ça lui laissait pour s'approcher à nouveau du canapé, où elle continuait de se tenir, jambes serrées toujours, dont les genoux eux-mêmes auraient aimé fuir ses regards répétés qu'il lançait malgré lui. Et comme par un tour de magie sur la dernière syllabe de sa phrase, il est venu s'asseoir là, non plus en face d'elle, mais bien à côté d'elle. Oui, voilà, à côté d'elle, sur le même petit canapé de cuir un peu anachronique, à cette distance qu'on ne dit pas encore intime, parce qu'il manque ces 10 ou 15 centimètres qu'il savait ne pas devoir conquérir, ou peut-être qu'il n'avait pas besoin de conquérir, pour estimer qu'il venait de faire le plus difficile. Dès lors qu'à son approche, elle ne s'était pas relevée d'un coup, encore moins n'avait cherché à prendre congé de lui dans les secondes qui suivirent, que maintenant il pouvait poursuivre la conversation comme si rien n'avait changé. C'est-à-dire comme s'il était normal qu'un mère et une jeune fille partagent un même canapé lors d'un banal premier rendez-vous. « Il faudrait que tu me laisses tes coordonnées pour que je puisse te contacter si jamais... » Elle, ses grands yeux maintenant fixés sur lui, un peu désarçonnée ou simplement prise de vitesse, elle a dit que « Oui, pourquoi pas ?»« Oui, bien sûr, mais peut-être le plus simple c'est que vous en parliez à mon père, non ?» À nouveau, il a senti comme un courant d'air qui passait entre eux deux, quelque chose comme le fantôme de Max qui s'immisçait dans le grand bureau et qui ne devait pas rester là. Parce qu'alors, tout le fragile édifice qu'il construisait lentement risquait de s'écrouler, pressentant que c'était là l'obstacle principal, qu'il suffisait à tout moment que Max apparaisse comme un hologramme dans la pièce pour faire comme un mur entre eux deux. Qu'elle avait éprouvé soudain le besoin de monter sans même se rendre compte combien ça avait été une sorte de défense naturelle et inconsciente, pourvue de se protéger de lui, comme si à chaque fois qu'elle dirait « mon père », il apparaîtrait là, dans un coin de la pièce, et qu'elle se réfugierait derrière lui comme une enfant timide qui s'agrippe à la jambe d'un adulte. « Oui, oui, il a dit, mais enfin ce sera plus simple si tu me laisses un téléphone, que je puisse donner tes coordonnées. » « Oui, bien sûr, elle a dit. Tu as peut-être des compétences particulières. Pardon ? Je ne sais pas, tu parles anglais, tu as déjà travaillé ? Un peu, oui, dans... » Et bifurquant à l'intérieur d'elle-même, hésitant un instant à dire la vérité, elle a repris « dans un bar. » »« Ah oui, dans un bar. Ça t'a plu ? » ?»« Oui, oui. » Mais à partir de là, il ne s'intéressait pas plus aux phrases qu'il prononçait qu'à ses réponses à elle. Chaque mot venu seulement comblait ce temps qui lui permettait de s'installer en haut de la situation. Cela qu'elle n'a pas tardé à comprendre, du moins il y a une part d'elle que ça a plus qu'effleuré, qu'il avait d'autres idées en tête. Quant à chaque seconde qui passait si lentement, on aurait dit qu'il avait un sismographe dans la poche pour mesurer les vibrations qu'elle dégageait, en même temps qu'il s'approchait doucement, très doucement, de ce qu'il faudrait bien appeler l'épicentre, à ceci près que le séisme n'avait pas encore eu lieu. Et puis voilà. De même qu'en tectonique survient l'instant du choc, de même elle a senti sa main à lui qui se posait sur la sienne en même temps qu'il lui disait « Je vais faire ce que je peux pour t'aider ». Elle a senti sa respiration se couper comme un clou qu'on aura enfoncé dans une horloge pour en arrêter l'aiguille. Et elle n'a plus bougé pendant de longues secondes, interdite, en somme, le cerveau à l'arrêt, c'est-à-dire non pas réfléchissant ni hésitant, mais seulement suspendu, avec cette information nerveuse qui était bien montée là, dans son cerveau, mais s'y était bloquée comme un ascenseur entre deux étages. Je ne saurais pas vous dire, a-t-elle expliqué au policier, combien de temps j'ai mis à la retirer cette main prise sous la sienne. Je me souviens juste que j'ai fini par le faire et que je l'ai glissée dans l'autre encore libre et que je me suis levée. Pas assez vite, pensa-t-elle plus tard, c'est-à-dire pas d'une manière qui aurait signifié que rien n'était possible. Du moins, c'est ce qu'elle supposerait rétrospectivement. Mais rétrospectivement seulement.
Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi.
Tandis qu'il retournait sans hésiter vers son bureau pour y prendre un stylo et un petit carnet sur lequel il lui demanderait d'écrire son numéro de portable. Ça aussi, oui, c'était son truc, a-t-elle mentionné à la police. Cette manière de laisser entendre qu'il ne la traitait pas comme n'importe qui et qu'il notait son numéro dans un carnet personnel.
Il y a des gens comme ça, elle a dit, capables de vous faire croire qu'il n'y a que vous au monde. À son tour, il lui a tendu sa carte de visite, celle avec les armoiries de la ville et son nom imprimé. Pas donné, tendu. Et elle se souvenait très bien de l'instant où la carte était entre leurs deux mains, comme suspendue dans l'air, au-dessus d'un précipice, et qu'il la retenait légèrement. Elle pouvait sentir ça, la passerelle de papier qui les liait, tandis qu'elle n'osait pas tirer plus fort pour la lui prendre. Et alors il a dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. » Et seulement là, il a lâché prise. À nouveau, elle l'a remercié, avec cette fois la carte dans la main qu'elle ne savait pas où ranger, pendant que lui, rompu à ses fins de rendez-vous, la raccompagnait jusqu'à la porte, avec ce qu'il fallait de sa main dans son dos pour la pousser vers la sortie et lui faire comprendre une dernière fois qu'il s'occuperait de son cas.
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share.
Alors, quand elle a ouvert la porte devant lui, Quentin Lebas lui souriait à demi. Pour elle, c'était comme une photo découpée dans un magazine et qu'on aurait collée là, dans l'ombre du palier. Lui, la saluant à peine gênée, attendant qu'elle lui dise d'entrer. Comme aussi bien elle aurait dit à un employé du gaz de venir relever le compteur, à ceci près qu'avec sa chemise blanche un peu tendue par la courbure de son ventre, sans la cravate qu'il avait dû enfouir juste dans sa poche. Non, il ne ressemblait pas à un employé du gaz. « Tu vois, il a dit, j'ai tenu ma promesse. » Et alors elle, 20 ans, étudiante, lui, 48 ans, maire de la ville, elle a souri comme elle avait appris à le faire, elle a reculé pour le laisser entrer, et lui, sans hésiter, l'a embrassé sur les deux joues. Dans son regard, elle pouvait lire le mélange de « Non, c'est plus tard, seulement plus tard, a-t-elle dit, qu'elle a cru déchiffrer ça, cet air un peu inquiet qu'il portait comme d'une enfance qui n'en finit pas, ses sourcils épais qui se soulevaient légèrement, qu'à travers eux, on aurait pu croire qu'il portait quelque chose de la bienveillance, ou bien de l'inquiétude du monde, ou bien... Mais non, il n'y avait rien du tout de cela, seulement le fait que même le diable n'a pas toujours un costume rouge, ni des flammes dans les yeux. » Et le Bars faisait déjà le tour de la pièce, comme s'il avait eu besoin de s'habituer à l'endroit, ou qu'il avait soupçonné la présence d'un micro caché quelque part, ou bien se demandant si lui-même pourrait habiter un endroit comme ça. Du moins, Laura a pensé ça, que tous les humains, quand ils entrent n'importe où, ou dans un château, ou un taudis, se demandent toujours s'ils pourraient y vivre. « Moi, en tout cas, je suis comme ça », a-t-elle dit au policier, « capable d'habiter en rêve toutes les maisons du monde. » « Mais peut-être que j'ai un problème avec habiter », elle a dit. Et puis, très doucement, très posément, il a dit « Tu es bien ici ». Elle a fait oui de la tête, sans oser le prononcer, tandis qu'il avait tourné le dos à la lumière et marchait autour du lit comme un rôdeur, cherchant par où franchir un mur d'enceinte, s'arrêtant, hésitant encore, et puis d'un coup, voilà, il s'est assis au bord du lit. C'est seulement à ce moment, elle a dit, que j'ai compris que dans cette chambre, il n'y avait rien d'autre pour s'asseoir que le lit. Rien d'autre ou respecter cette distance qui lui aurait peut-être évité la suite, mais qu'il a, à moins de dire sèchement non, à moins de le rendre ridicule à lui-même dans sa position assise, cette distance, ce n'était pas possible. Il fallait qu'elle fonde comme neige au soleil. Moi, toujours debout, elle a dit, vous comprenez, c'était comme si je l'avais mis mal à l'aise, ou que je manquais aux convenances. Voyez-vous, et lui, il devait le sentir, parce que il n'y est pas allé par quel chemin, il a lancé, tu ne t'assieds pas. Elle a juré au policier qu'elle ne s'était pas assise tout de suite. Un œil vers le grand miroir qui renvoyait sa silhouette maladroite, un autre à l'intérieur d'elle pour essayer de prendre la mesure de ce qui se passait, parce que à cet instant, et à cet instant seulement, dans les quelques secondes où elle hésiterait à s'asseoir, elle a compris qu'elle allait prendre une décision. Comme une signature en bas d'un contrat qu'il serait difficile de rompre et dont elle aurait par avance accepté toutes les clauses, signé tous les avenants qui n'étaient pas encore écrits, mais dont elle sentait que chaque mouvement représentait des pages entières noircies d'obligations. Et tout ce que je peux vous dire, elle a repris, c'est que ce qui nous étouffe quelquefois, ce n'est pas la panique de l'instant, plutôt la vue qu'on a soudain sur son propre futur. Ils se sont regardés à nouveau, les deux policiers, se demandant de plus en plus à qui ils avaient affaire. À force de cette manière un peu digressive, un peu désaffectée aussi, qu'elle avait de raconter son histoire, comme si elle ne lui appartenait pas vraiment, comme si elle se regardait elle-même la raconter, sans qu'à aucun moment, non, elle n'ait cherché à les prendre par les sentiments. Sa manière à elle finirait-il par comprendre d'y parvenir? Et alors elle a continué. Mais ce contrat, en fait, je l'avais déjà signé. Comment ça ? A demandé le flic. Je veux dire, c'est l'image que j'ai eue à ce moment-là. L'image de toutes ces pages que je tenais dans mes mains et qu'il était trop tard pour déchirer devant lui. Trop tard pour lui demander de partir maintenant. Lui, le maire de la ville. Non, je vous dis, c'était signé. Et alors oui, elle s'est assise sur le rebord du lit, à côté de lui, pas trop près, mais quand même. Et dans le silence qui suivit entre deux, sous la signature qu'elle venait de déposer là sur la dernière page, il y eut comme une forêt immense qui avait poussé d'un coup, faite de 1000 signes minuscules que l'un et l'autre essayaient de déchiffrer à la vitesse de la lumière. Lui, sa disponibilité à elle, il aurait pu penser sa fragilité, mais non, il a pensé sa disponibilité. Elle, son désir à lui. Elle aurait pu penser sa vulgarité, mais non, elle a pensé son désir. Et alors, très lentement, sans un mot de plus, il a pris sa main dans la sienne. C'est à cet instant précis que ça a vraiment eu lieu, elle a dit. Pas celui d'après, non, pas plus tard. Pas même quand j'aurai son sexe dans la main. Elle a dit, oui, crûment, elle dirait ça. Quand jusqu'alors, elle avait été si rétive à livrer les faits dans leur simplicité, c'est-à-dire dans leur brutalité, et puis soudain, c'était sorti comme ça, sans le moindre détour. Une simple histoire d'organes qui n'aurait pas dû se rencontrer, et parce que peut-être ça aurait été pire pour elle de ne pas le dire comme ça, de persister dans tous les silences et les périphrases qui, depuis un moment déjà, laissaient flotter l'image en elle, et pour dire quoi ? Une chose qui pouvait tenir dans le plus simple énoncé du monde, son sexe à lui donc, dans sa main à elle. Oui, elle a repris, quand j'ai senti la paume tiède de sa main, c'était comme si ma propre main n'était plus la mienne, et qu'alors c'était toute l'énergie du vivant en moi qu'il avait réussi à saisir, à contrôler ou magnétiser, je ne sais pas. En tout cas, à partir de là, il avait pris le pouvoir, et alors, quand il a soulevé ma main, quand il l'a approchée très doucement de sa ceinture, au contraire, si je peux expliquer ça, au contraire, à partir de là, c'était comme si le monde se recomposait doucement. Je veux dire, comme si tout ce qui suivrait, chaque geste ou parole qui suivrait, il n'était pas là pour augmenter le souffle de l'explosion, mais bien pour garantir que tout ça était logique, que tout ça était cohérent, et comme ordonné par un Dieu que je ne connaissais pas, mais qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait. En tout cas, je m'en suis remise à lui, ce Dieu inconnu, pour tout ce qui se passerait dans cette chambre ce jour-là. Lui, le Bars, il a pris le temps qu'il fallait, comptant les secondes peut-être, comme un anesthésiste à l'heure de l'opération attend l'effet de la piqûre. Si la dose de curare ou je ne sais quel produit surpuissant, si c'est la bonne quantité dans le bon corps, c'est-à-dire si elle n'allait pas crier ou se lever d'un bond ou le gifler, mais moi, elle a dit non, je n'ai pas bougé. Je veux dire, pas plus qu'il n'aurait voulu que je bouge à cet instant. Juste ma main qui se déplaçait comme un objet inanimé vers lui, c'est-à-dire vers la forme déjà raide de son sexe. Là, devant les deux policiers, elle a laissé traîner un long silence qu'ils n'ont pas osé interrompre, comme si elle réfléchissait à l'ordre des choses et le recomposait si difficilement. Et il a dit qu'il pourrait m'aider, elle a repris. Je l'ai fait parce qu'il a dit cela d'abord. Je veux t'aider, Laura. Il a mis sa main sur la vôtre, cela vous en êtes sûre ? Elle a juste fermé un peu les yeux en guise d'acquiescement. Mais ensuite, je ne sais pas, son regard peut-être, ou une légère traction de sa main, ou bien moi tout seul qui ai cru que... Elle se taisant à nouveau d'un regard vers le sol. Que quoi ? Que ça se passait comme ça ? Comment ça ? Dit le flic. Qu'est-ce qui se passait comme ça ? Je ne sais pas, ce genre de choses. Que forcément, si vous en êtes là, forcément au bord d'un grand lit, dans une chambre, avec un homme comme lui, eh bien voilà, vous... oui, vous le faites. Vous le faites. Oui, vous le faites. C'est-à-dire que vous laissez sa main vous guider jusqu'à son sexe, et vous comprenez qu'il vous appartiendra d'entreprendre. Et elle a dit ce mot-là, entreprendre, que c'est elle qui l'a entrepris. Il ne vous a rien demandé ? Non, pas vraiment. Donc, vous l'avez fait de votre propre volonté. Non, je vous dis, c'était ce que je devais faire. Ça ne veut pas dire que c'était ma volonté. Et les deux flics commençaient à s'agacer, insistant. Attendez, vous dites qu'il ne vous a rien demandé ? Non, rien. En tout cas, il n'a pas dit « déshabille-toi », dit « allonge-toi ». Non, il n'a pas dit une phrase comme ça. Et pour une raison simple, a-t-elle compris depuis, qu'il avait besoin de se mentir à lui-même. C'est-à-dire quelque chose en lui avait besoin de quitter la chambre, avec le sentiment qu'il n'y était pour rien. Que ce n'était pas lui, mais bien elle qui avait agi. Que son corps à lui avait seulement cédé, mais jamais rien de sa volonté propre. Que oui... C'est par surprise qu'il s'était retrouvé avec sa main à elle sur son sexe à lui. C'est par surprise qu'il a basculé la tête légèrement en arrière, que soudain il n'était plus lui-même, mais comme envoûté par cette salope qui ne pensait qu'à avaler son sexe, et que lui, qu'avait-il fait sinon céder aux lois incontournables de la nature ? Qu'a-t-il fait sinon lui rendre service à elle, qui cherchait la chaleur de son sexe ? Voilà toutes les pensées qu'il consolidait pour longtemps. Le genre de pensée dont il aurait besoin pour se faire passer à lui-même l'amertume de son vice. À moins que non, c'est le genre de pensée dont elle aurait besoin, Laura, de l'imaginer amère ou coupable, ou simplement triste, pour, à son tour, supporter la sienne propre, d'amertume ou de tristesse, quand 10 minutes plus tard, il s'était relevé si vite, rhabillé si vite encore évanoui, dans le soir, à peine un regard en refermant la porte. Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Near the halo of a street lamp I turn my color to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Nous espérons que cette lecture vous donnera l'envie de poursuivre ce roman. Max parviendra-t-il à aider sa fille à se déprendre de l'emprise qu'exerce sur elle Quentin Lebars, maire de la ville ? Ces extraits ont été lus par Annie et Guylaine. Nous remercions Claude Michel pour le montage de l'émission. La musique est extraite de la bande originale du film L'Emprise, The Sounds of Silence, interprétée par Allison.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
88.5